Merci beaucoup, on est ensemble jusqu'à 13h30. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'art de faire du vrai avec du faux. À quoi tient notre goût pour les histoires de faussaires, présentées parfois comme des Robin des Bois ou des Arsène Lupin du marché de l'art? Ils s'insèrent dans les failles et exploitent les dérives d'un milieu où l'art est convoité comme un investissement, où des tableaux s'achètent à coups de millions. Génie ou pas, les faussaires sont d'abord des escrocs, estime le journaliste du Monde Harry Bellet, qui raconte quelques-uns des méfaits les plus spectaculaires de l'histoire de l'art dans Faussaires illustres, qui paraît chez Actes Sud. Bonjour. Bonjour Harry Bellet.
Bonjour.
Vous rappelez cette boutade célèbre dans le milieu, le peintre Corot aurait réalisé 3000 tableaux, dont 5000 sont aux États-Unis. Une autre, un chiffre, 40% des œuvres du Metropolitan Museum de New York sont des faux. C'est du moins l'opinion de son ancien directeur, Thomas Hoving. Après enquête, on se demande s'il n'est pas en deçà de la vérité. D'après vous, Harry Bellet, elle se situe où la vérité ?
Alors, en matière de faussaires, la vérité, c'est vraiment la chose la plus impalpable, la plus difficile à trouver. Ils mentent tous. On peut imaginer que Thomas Hoving, quand il a écrit ça, avait le sens de l'exagération d'un romancier qu'il a été, mais il a aussi été directeur du Met. Et pendant plusieurs dizaines d'années, il en a vu des tableaux, il en a vu des dizaines de milliers. Et il dit, sa phrase exacte, c'est 40% des tableaux du Metropolitan Museum sont des faux ou tellement repeints ou tellement mal attribués que ça revient au même.
C'est ça, parce que beaucoup de tableaux sont aussi retouchés et on y finit par même plus y retrouver la patte du maître. Hein.
Ah ben le dernier exemple un peu connu, c'est le Léonard de Vinci qui a été vendu pour l'instant le record du monde en matière de vente aux enchères, 450 millions de dollars tout de même, Salvatore Mundi. Il se trouve qu'on a eu la photo du tableau avant qu'il ait été restauré. On a à peu près deux pains. À peu près en bon état, le doigt. Donc le doigt est peut-être authentique, oui.
Des œuvres trop restaurées ou mal attribuées qui ne font pas des faux, pour autant, peut-on savoir avec certitude si une œuvre n'est pas un faux ? Est-ce qu'il y a des critères pour cela ?
Ah ben, on va reprendre Léonard de Vinci. La Joconde est un vrai tableau de Léonard de Vinci parce qu'on a son pédigré, on a sa provenance. Elle a été amenée en 1516, je crois, par Léonard de Vinci en France, dans ses bagages, quand il est venu travailler pour François Ier. Elle a été vendue directement à François Ier et elle est arrivée au Louvre directement des héritiers de François Ier. Donc là, à peu près, une certitude.
Alors vous le rappelez, si les faussaires ne sont pas tous de futurs génies comme Michel-Ange, pourquoi Michel-Ange ? Parce que ce sont aussi ces qualités de faussaire qui ont permis à Michel-Ange de se faire connaître avec la copie ou l'emprunt qui sont parfois des passages recommandés. D'ailleurs de cette affaire du Cupidon vieilli que vous pouvez peut-être nous raconter pour le faire passer pour une sculpture antique, Michel-Ange ne tira que des éloges. Hein. Lui, il n'a pas été considéré comme un faussaire. Comment ça s'était passé pour lui ? C'était au tout début de son parcours.
Oui, hein. Il est jeune, il est plein de promesses, il est totalement inconnu et ça commence à lui peser. Et donc il sculpte ce que les mécènes de l'époque veulent. Ils veulent pas de l'art moderne, ils veulent de l'art romain antique. Si en plus c'est de l'art grec, c'est meilleur, mais bon, il n'y en a plus. Et donc il va leur faire ce qu'ils attendent. C'est à peu près ce que feront tous les faussaires après lui. C'est-à-dire qu'il va leur donner ce qu'ils veulent, en l'occurrence un Cupidon antique.
Voilà. Et pour Michel-Ange, ce sera un ticket d'entrée dans la cour des grands.
Oui, parce qu'il fait tout comme il faut. Hein. Il le sculpte bien, ça c'est son métier, et on ne peut pas lui reprocher de le faire mal. Il l'enterre assez longtemps pour que ça lui donne une patine. Donc on peut faire croire qu'il est vieux. Il trouve un marchand un peu escroc qui va le vendre à un cardinal comme un authentique. Le cardinal l'achète et là, il a la surprise d'apprendre que c'est Michel-Ange, ce jeune homme inconnu, qui l'a sculpté tout seul dans son coin. Alors, le cardinal va avoir deux bons réflexes. Premier réflexe, demander le remboursement auprès du marchand. Deuxième réflexe, embaucher Michel-Ange pour qu'il lui fasse des vrais Michel-Ange.
Et c'était parti. Donc, si les faussaires ne sont pas tous de futurs génies comme Michel-Ange, ils sont le plus souvent d'excellents artisans. Voilà ce que vous nous rappelez aussi, Harry Bellet, au fait de tous les trucs du métier. Rappelez-vous, allant jusqu'à inventer des traces de vie à une œuvre dans les archives, c'est ça que vous appelez le pédigré, l'importance de la traçabilité pour une œuvre. Une œuvre doit avoir une histoire, logiquement.
Oui, parce que une œuvre ancienne qui apparaît tout d'un coup d'un artiste très connu, qui a disparu pendant 3, 4, 500 ans, ça n'existe pas. Alors, ça existe, puisqu'on l'a trouvé récemment. C'est une des raisons pour lesquelles on a saisi un faux supposé tableau de Cranach, qui appartient quand même à la famille du Liechtenstein. Je parle des princes, pas du pays. Et ce qui a mis les policiers sur la piste, c'est que ce tableau apparaissait de nulle part. Donc il est douteux. Il est analysé, on travaille dessus. Il est tout à fait bien peint, il n'y a pas de problème, mais l'absence de pédigré fait qu'on en doute encore.
Alors c'est justement cette absence aussi de pédigré qui a semé le doute dans l'esprit de certains experts autour de l'affaire des faux Mondrian, des Mondrian tant désirés par Beaubourg. L'affaire remonte à 1978. Écoutez Michel Seuffort, un ami de Mondrian, peintre et critique d'art. C'est lui qui avait certifié, en tout cas au départ, que les Mondrian acquis par Beaubourg étaient de vrais Mondrian, alors qu'en réalité, ça s'est mal terminé, c'était des faux. Écoutez-le.
Je ne peux pas parler contre ma conscience. Les experts sont des gens très honorables que je respecte infiniment. Ils connaissent certainement très bien leur métier, mais moi je ne connais pas leur langage. Je ne suis pas chimiste, et d'ailleurs je ne suis pas expert, je le dis sur tout le ton. Je suis un homme qui juge selon le sentiment de son regard. Et ce sentiment n'a pas varié. Le jour de la première audience, j'avais les trois tableaux à côté de moi, et je les ai admirés une nouvelle fois comme étant authentiques, comme étant d'un créateur ou d'un homme, qui finalement est peut-être un faussaire, mais c'est un faussaire alors vraiment génial et qui me laisse perplexe.
Vous avez laissé entendre que d'autres tableaux de Mondrian actuellement exposés dans d'autres musées pourraient ne pas être d'authentiques Mondrian.
Ah, les tableaux de Mondrian sont toujours partagés par des lignes noires. Comme vous savez, il y a au Gemeentemuseum de La Haye, qui a trois salles de Mondrian, il y a un tableau où les lignes sont jaunes. Si on découvrait aujourd'hui ce tableau, s'il n'était pas dans ce musée depuis nombre d'années, et si moi je ne l'avais pas vu peindre en 1933, je dirais c'est impossible. Mondrian ne peut pas avoir peint un tableau avec des lignes jaunes au lieu des lignes noires.
Cette affaire, elle avait vraiment fait scandale à l'époque, hein, Harry Bellet.
Oui et non, parce que les conservateurs des musées de France, et pas seulement ceux-là d'ailleurs, n'ont jamais intérêt à ce que ce genre de choses fasse la une de la presse. En même temps, c'était symbolique. Mondrian a vécu en France pendant des dizaines d'années, on lui a jamais acheté un tableau. Il est parti juste avant-guerre pour éviter l'invasion, et il est mort aux États-Unis où on lui a fait un triomphe. Le premier Mondrian que les musées de France ont acheté, ça doit être dans les années 1970 ou 74, et c'était pas un tableau très représentatif. Et puis tout d'un coup, on en propose un paquet, un ensemble, pour un prix tout à fait raisonnable. C'est une raison de se méfier. Quand le prix est trop bas, c'est pas bon signe en général. Le Centre Pompidou se jette dessus et les achète avant qu'on se rende compte que y a un problème de provenance. On sait absolument pas d'où ils sortent. On vient d'entendre Seuffort. Seuffort était un homme honnête, un peintre aussi. Il avait bien connu Mondrian. C'était probablement les seuls à l'avoir fréquenté à l'époque où il était à Paris. Jusqu'à la fin de sa vie, Seuffort était persuadé qu'il avait raison. Mais même les meilleurs peuvent se tromper.
Et là, on sait dans cette affaire qui avait réalisé les faux Mondrian.
On ne connaît pas le faussaire, on connaît la vendeuse, qui est une dame qui vivait en Suisse, qui d'ailleurs a récupéré les tableaux, je crois, qui se promène peut-être toujours dans la nature.
Ou dans son salon. on ne saura pas. Harry Bellet, parfois on a tellement envie d'y croire. C'est ce qui s'est passé avec ces Mondrians. Beaubourg voulait ouvrir et avoir ces Mondrians. Il n'en avait qu'un, ils en espéraient plus pour voir aussi, pour voir dans leur collection. Parfois on a tellement envie d'y croire, et c'est aussi le cas de ce spécialiste de Vermeer, tellement persuadé que le maître hollandais avait une période italienne, qu'un faussaire a eu le bon goût de se charger de lui en fournir une période italienne.
Hein. Oui, ça aussi c'est une caractéristique de... Je me suis intéressé qu'au faussaire créatif. Je ne crois pas au mot génial en matière de faussaire. Le seul faussaire génial, c'est celui qui ne s'est pas fait arrêter. Et pour l'instant, on les attrape tous, ou presque. Mais il y en a qui sont sévèrement créatifs. Celui-là, Van Meegeren, avait une carrière de peintre qui avait bien commencé, puis c'était rapidement terminé. Bon, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la peinture. Et le gars s'est vengé d'une certaine façon du milieu de l'art en disant, ben voilà, vous m'avez méprisé, je vais vous montrer que vous êtes des imbéciles. C'est aussi un des moteurs des faussaires. Et Van Meegeren savait que les historiens d'art étaient persuadés que Vermeer avait eu une période caravagesque. Sauf qu'on n'en trouvait pas d'exemple. Mais les historiens d'art étaient persuadés, ça ne pouvait pas être autrement. Mais on n'en trouvait pas d'exemple. Alors, puisque les historiens en sont persuadés, ben on va aller leur donner les exemples. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que ce serait impossible de nos jours de confondre un Van Meegeren avec un Vermeer. De nos jours, peut-être, parce qu'on sait que Vermeer, maintenant, n'a probablement pas eu de période italienne. Sauf qu'à l'époque, on en était persuadés, ils leur donnent ce qu'ils veulent.
Les faussaires nous donnent ce que nous voulons. Oui. Ça, c'est aussi un point très important, cette question des croyances. Vous donnez un autre exemple plus anecdotique, mais qui en dit long, c'est l'affaire ou l'histoire des prépuces du Christ. Combien de prépuces du Christ, tous authentiques, bien sûr, trouve-t-on en Europe ?
15 ou 16, je crois, dont deux à Rome. Mais ce sont des reliques. Le problème de l'authentification des reliques est très simple. Si elles font un miracle, c'est qu'elles sont bonnes. Donc si les 15 font des miracles, c'est que les 15 sont bons.
On peut citer encore une autre affaire que vous nous racontez dans ce livre, Faussaires illustres, celle de Sean Greenhalgh, qui était lui un faussaire avec le faune de Gauguin. Le faune de Gauguin, c'est une tête qui est achetée en 2001 par le musée de Chicago, le Art Institute de Chicago, avant de voyager jusqu'au musée Van Gogh d'Amsterdam. C'était un faune qui n'était pas très très bien pourvu par la nature, nous racontez-vous, Harry Bellet. Et ça a commencé à poser des questions.
Non, c'est là que c'est amusant. Enfin, là, il y a une partie pas amusante, c'est que je l'ai vu et que je l'ai trouvé très bon, comme les 500 000 autres personnes qui l'ont vu au musée Van Gogh. Hein, donc on se fait avoir aussi. Mais là où c'est plus savoureux, c'est que le fait que ce faune était effectivement peu membré posait des questions, parce que Gauguin était un guéluron, c'est pas les Tahitiennes qui me démentiront, et voilà ce faune qui tout d'un coup se retrouve un peu impuissant. Alors on va développer des théories autour, et pas petites si j'ose dire, c'est un historien d'art très sérieux par ailleurs qui va dire mais en fait c'était parce que c'est une représentation de son beau-frère, il le détestait donc il l'émascule symboliquement. D'autres disent non, il avait des problèmes avec sa femme qui va bientôt devenir son ex-femme et donc il s'émascule symboliquement. Enfin bon, bref, on écrit l'histoire de l'art à partir de faux, c'est-à-dire qu'on écrit n'importe quoi.
Combien de temps ce faune a fait illusion ?
Une bonne dizaine d'années, je crois.
Donc, ce qui est quand même marquant pour vous aussi, c'est, à travers ce type d'affaires, les récits alternatifs sur la vie et sur les intentions de l'artiste qu'on arrive à inventer pour faire que ça colle et que ça coïncide.
Parce qu'on en a envie. L'histoire de l'art, c'est une histoire aussi. C'est une histoire aussi, on a besoin de nous raconter des histoires. Et on a besoin de croire que c'est possible. On va, à partir du moment où on va avoir une œuvre un peu surprenante dans un corpus, dans un ensemble d'œuvres du même artiste, on va essayer de lui trouver une justification, au lieu de se demander tout bêtement, est-ce que c'est vraiment de cet artiste-là ? C'est pour ça que j'aime pas les faussaires. Parce que si on pense parfois que Corot est un mauvais peintre, c'est parce qu'on regarde les milliers de faux Corot qui n'ont pas encore été authentifiés, qui n'ont pas été encore retenus comme faux. Et on se dit, bon, il n'était pas brillant ce jour-là.
Vous n'aimez pas les faussaires, en même temps vous racontez l'histoire de certains d'entre eux et tentez de comprendre à travers ces affaires ce qui nous fascine tant que ça. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par cet art du faux ? Cette idée que ces hommes ont réussi à duper à un moment les plus grands experts, les plus grands connaisseurs du marché de l'art.
Bah, précisément pour ça. parce que les experts, bon, nous énervent un peu. Donc, Greenault, dont vous venez de parler, il faisait ses faux, et merveilleusement d'ailleurs, puisqu'il m'a trompé aussi, dans l'arrière-cour de sa maison de banlieue, de la maison de banlieue de ses parents, près de Liverpool. C'était un type qui avait de l'or dans les mains, ce garçon. Mais, comme beaucoup de faussaires, de l'or dans les mains, mais pas d'originalité. Donc, ça allait mieux de faire les œuvres des autres. Bien. Qu'il puisse tromper les plus grands experts, ça rassure ceux qui parmi nous ne le sont pas. Hein ? Il a trompé les experts. Et puis après tout, c'est pas grave, puisque de toute façon, les gens qui les achètent, ce sont des milliardaires. Donc, qu'un milliardaire soit grugé, pouf, c'est presque drôle. Pensez le côté Arsène Lupin. Encore une fois, on oublie une chose, c'est que les premières victimes, c'est pas les milliardaires, c'est pas les experts, c'est les artistes.
Alors ce faussaire britannique Sean Greenhalgh, il a fini par se faire rattraper pour trois reliefs assyriens et une faute d'orthographe qui traînait par là.
Oui, il avait vraiment monté avec ses parents. C'est une affaire de famille. Ses parents étaient deux petits vieux adorables qui venaient dans les musées avec les œuvres que le petit avait fait dans l'arrière-cour de la maison en disant ben voilà, on a trouvé ça, c'est un vieux truc de famille. Voilà, ils avaient acheté même un catalogue de vente ancien qui permettait de laisser croire que ça venait de chez eux. Et les marchands ou les conservateurs de musées qui voyaient arriver ces deux petits vieux ne pouvaient que leur donner le bon Dieu sans confession. Et Greenhalgh, il faisait lui aussi ce qu'on espérait, ce qu'on attendait. On savait qu'il y avait quelques sculptures grecques de tel modèle qui avaient un peu disparu. Et hop là, il en faisait une nouvelle. Et les parents venaient voir le musée local en disant « si on a trouvé ça sous le placard à balai, si vous en voulez pas, on en fera un nain de jardin ». Évidemment, c'était pas cher, les gens se précipitaient pour les acheter.
Alors, pour les scandales les plus récents, comment les faussaires font-ils entrer leurs faux dans les plus grandes collections ? On l'évoquait, certains inventent des pédigrés, une histoire aux œuvres qu'ils vont fournir. Parfois, ce sont les experts, les spécialistes, les historiens d'art qui se chargent pour eux de trouver, on l'a vu avec ce faune de Gauguin, une histoire pour ces œuvres. Le plus doué de ces faussaires, probablement des dernières années, c'est Wolfgang Beltracchi. Vous racontez ses méfaits dans votre livre « Faussaires illustres » en précisant qu'il n'est pas vraiment nécessaire de lui faire de la publicité, que sa légende, il a pris soin lui-même de l'écrire, notamment dans une autobiographie « Faussaire de génie », jusqu'à se mettre en scène aussi dans un documentaire familial « Beltracchi ou l'art de la contrefaçon ». Je vous propose, avant de vous laisser la parole, d'écouter l'historien Henri Kizor, qui décrit sa méthode, celle de ce faussaire Wolfgang Beltracchi.
Wolfgang Beltracchi a été très intelligent quand il a choisi des artistes à copier, car il savait que ça aurait été très compliqué de fausser des peintres très célèbres, comme par exemple Van Gogh ou Renoir, ou dans ce style. Donc il a été très malin parce qu'il a choisi des artistes de second rang, qui sont quand même importants, mais moins célèbres que les premiers. Il dit qu'il ne regardait pas seulement les peintures des artistes qu'il copiait, mais qu'il essayait de se plonger dans leur vie. Il écoutait la musique qu'ils écoutaient, essayait de connaître leurs conversations, connaître toutes leurs petites habitudes. Et de cette façon, il se mettait vraiment dans leur état d'esprit. C'est fou, mais ça montre à quel point on peut croire à quelque chose si on le désire. Personne n'aurait pensé que quelqu'un puisse être capable de monter un tel scénario. On se dit que ça aurait été démasqué. Faire poser une femme à la place de la grand-mère de l'artiste, mais ça a marché.
Extrait du documentaire Wolfgang Beltracchi, l'escroc du siècle, c'était donc la voix de l'historien d'art Henry Kizor à son sujet. Une personnalité qui fascine, lui et sa femme, hein, ils agissaient à deux, surnommés parfois les Bonnie and Clyde de l'art. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est de comprendre avec vous, Henri Bellet, l'ampleur de l'escroquerie.
Il a été accusé d'avoir vendu 14 tableaux, c'est les 14 que la police allemande a identifiés, mais il a travaillé 35 ans. Donc très très probablement, il y en a un peu plus, voire beaucoup plus.
C'était quoi sa spécialité à lui ?
Et il n'avait pas de spécialité à proprement parler. Hein. Il était plutôt à travailler sur des œuvres dont on savait qu'elles avaient existé, dont on savait qu'elles avaient exposé en Allemagne avant 1933 et qu'elles avaient disparu avec l'arrivée des nazis. Et alors là où il a été très subtil, c'est que il leur a trouvé un pédigré qui permettait aux historiens de constater, ça c'est la grande terreur des conservateurs de musées aujourd'hui, c'est le tableau qui est dans le musée, est-ce qu'il a été spolié aux Juifs ou pas ? Donc le fait que les grands-parents, disait-il, de sa femme, les aient achetés, et ils produisaient des factures qu'il avait fait avec autant de talent que ses tableaux, les avaient achetés bien avant l'arrivée des nazis, montrait que ce n'est pas des tableaux spoliés. Donc de ce point de vue-là, les conservateurs de musée étaient déjà reposés et tranquilles. Bon, il a effectivement mis en scène sa femme dans des photographies qu'il a refait avec du matériel d'époque, y compris les papiers. Mis en scène sa femme habillée comme pouvait l'être sa grand-mère. D'ailleurs, les gens disaient « C'est incroyable ce que vous ressemblez à votre grand-mère ». Et les tableaux étaient au fond accrochés sur le mur. Donc, mais c'était pas le premier à l'avoir fait. Hein. D'autres avaient eu l'idée avant lui. Meltraki a eu ce génie de n'en avoir pas, mais de reprendre à peu près tout ce qui avait marché chez les faussaires qui l'avaient précédé. Il en a fait une sorte de synthèse à lui tout seul, c'est les faussaires du XXe siècle, il les résume. Voilà.
Beltracchi, vous l'évoquiez, poursuivi que pour 14 tableaux, pour une somme quand même globale de 34 millions d'euros. Vous évoquez aussi les manquements, ou en tout cas les faiblesses de la justice face à ces affaires de faussaires. Le plus souvent, ils sont poursuivis pour fraude fiscale et blanchiment. Pourquoi ? Pourquoi des peines ? Parce que même un Beltracchi, c'était quoi, 3 ans et demi de prison ?
Oui, une peine aménagée. En plus, il pouvait sortir à peu près tous les jours. Mais je veux pas la mort du pêcheur, c'est pas mon problème, je suis pas juriste. Simplement, autrefois, je parle du Moyen-Âge, les gens qui faisaient de la fausse monnaie étaient bouillis. Encore aujourd'hui, un faux monnayeur est très très mal reçu par la justice dans à peu près tous les pays. Un faussaire d'œuvres d'art, et je lance ici un appel à tous les faux monnayeurs, arrêtez la fausse monnaie, c'est pas rentable. Et un faussaire d'œuvres d'art est très... peut-être aussi parce que ça fascine les gens, et y compris les juges, il est considéré avec une sorte de sympathie. Je cite le cas de faussaire qui faisait des faux Yves Klein. Je dirais, c'est en plus, c'est assez relativement simple de faire un monochrome bleu. Mais la police fait bien son travail, la police les avait arrêtés, la justice fait bien son travail, ils avaient obtenu des aveux. Ils vont au tribunal. En face, il y a les héritiers de Klein qui ont pour mission notamment de faire respecter le droit moral de l'artiste. Et ils s'entendent dire tous par le procureur de la République, qui représente l'État, qu'il n'y a pas... Comment dire, c'est pas très grave. Donc, bon, puisque c'est pas très grave, on va pas les condamner, quoi.
Invité jusqu'à 13h30, le journaliste Harry Bellet, à l'occasion de la sortie de Faussaires illustres chez Actes Sud.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Inconnu, dit-on, quand l'art relève encore du sacré. À quand remonte cette pratique pour vous, Harry Bellet ? Est-ce que vous avez suivi le fil, remonté le fil historique de cette pratique des faussaires ?
Mais quand les clients veulent quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir naturellement, c'est-à-dire que on pourrait considérer que ça commence dès les Romains qui veulent de l'art grec. Bon, les Grecs vont leur faire de l'art grec tout neuf, mais qu'ils vont un peu antidater. Pour le reste, ça commence réellement le jour où les noms d'artistes valent plus cher que les œuvres d'artistes.
Vous dites qu'en matière d'art, la fabrication des faux explose vraiment à la Renaissance et qu'il y a un boom des faussaires quand l'art a commencé à investir la sphère privée, c'est-à-dire aussi quand les acteurs se sont multipliés. Qu'est-ce que toutes ces affaires nous disent du marché de l'art, du manque de transparence, de la multiplication des acteurs aussi sur ce marché, hein, marchand, collectionneur, expert, assureur? Est-ce que plus il y a de monde, plus il est facile de duper l'ensemble de la chaîne?
Si comme Jules II, pape, vous commandez directement à Michel-Ange la peinture de votre plafond, la Sixtine, vous êtes tranquille, c'est Michel-Ange qui va vous le faire. Si vous passez par un intermédiaire, vous avez déjà un possible doute. Si l'artiste est mort, c'est encore plus compliqué. Si le tableau n'est pas documenté, ça devient dramatique. Oui, la multiplication des intermédiaires n'arrange rien, bien sûr. Mais j'ai retenu une phrase de Roland Topor. C'est « Si ils aiment tant les faussaires, c'est parce qu'ils méprisent les artistes ». Je crois que fondamentalement, c'est ça. Il y a une sorte d'indifférence à ce qu'est la vie d'un artiste. Et ouais, au fond, si on lui trouve un succès d'année, c'est pas grave.
Comment juger d'une œuvre d'art? Ce que vous dites évoque aussi cette pièce de Yasmina Reza, Art, avec notamment Fabrice Lucchini. Écoutez-en un extrait.
Comment s'appelle le peintre Antrios? Connu? Très. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde de 200 000 francs. Comment peux-tu dire cette merde? Non, un peu d'humour, Serge, ris. Ris, vieux. Non, c'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau.
Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux, que ça te fasse rire bon, mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde.
Tu te fous de moi?
Pas du tout, cette merde par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. Tu t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Alors, comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde?
Mais c'est une merde. Excuse-moi.
Et qui pose, Harry Bellet, cet extrait de la pièce de Yasmina Reza, la question de la valeur de l'art. Qu'est-ce que vaut une œuvre d'art? Quels sont les critères de valeur en vogue aussi? Et pourquoi un vrai vaut quelque chose, alors que le faux, qui est une réplique parfaite du vrai, tout à coup ne vaut plus rien ou presque?
Alors, il y a deux questions là-dedans. Qu'est-ce que vaut une œuvre d'art? Une œuvre d'art, ça vaut ce que vous êtes prêt à la payer. Et donc, comme des gens sont parfois prêts à payer des sommes délirantes, parfois, pour des œuvres qui sont plus ou moins vraies, mais qui sont des marqueurs sociaux. Je prends à nouveau l'exemple du Léonard de Vinci, 450 millions de dollars, ça n'est pas totalement rien pour une œuvre dont on n'est pas sûr qu'elle soit de Vinci, mais il s'agissait d'établir un record et de marquer quelque chose d'important. Bon, à tort ou à raison, ça c'est pas trop la question. Et puis, au fond, on parle aussi d'une œuvre de l'esprit quand on parle d'œuvre d'art. Et c'est la raison pour laquelle le faux est dérangeant, parce que c'est pas l'esprit du créateur, c'est pas l'esprit de l'artiste, c'est l'esprit de quelqu'un d'autre. Beltracchi disait « je poursuis l'esprit des artistes que je copie », oui, bon, pourquoi pas.
Mais c'est ils lui
pas,
ont rien demandé.
Non, ils lui ont rien demandé, ils sont pas volontaires, c'est pas... Si le peintre a arrêté une série, c'est pas pour que Beltracchi la continue, quoi.
Mais ça pose une vraie question à partir du moment où l'art est devenu une valeur refuge, un investissement. Est-ce qu'on est vraiment arrivé, pour vous, Harry Bellet, à un moment où la demande a dépassé l'offre pour un certain type d'œuvre et que ce marché-là incite aussi à la production de faux?
Bien sûr. Ah mais bien évidemment. Bon, à prendre un exemple très simple, il y a pratiquement plus de contraste de forme de Fernand Léger en main privée. Si aujourd'hui vous trouvez un tableau d'avant 14 de Léger, un contraste de forme, vous pouvez le vendre à peu près ce que vous voulez. Mais il n'y en a plus. Enfin, il y en a très peu. Alors, c'est très tentant d'en refaire.
Qui a vraiment intérêt aujourd'hui à faire la chasse aux faussaires?
Ah ben, les ayants droit, les artistes, déjà, pour commencer. Hein, ça me semble normal. La police, et elle le fait très bien, avec les moyens qui lui sont donnés, qui sont très minces. Je crois que le service spécialisé en Grande-Bretagne, ils étaient 2. En Allemagne, ils doivent être 12. En France, la dernière fois que j'ai entendu parler de l'OCBC, qui fait remarquablement bien, c'est eux qui ont mis à jour les faux meubles de Versailles. Ce qui n'était pas donné. Qui fait très bien, je crois qu'ils doivent être une 20aine ou 25. Et qu'ils font pas ça à plein temps, parce que quand il faut des renforts de police pour une manifestation quelconque, eh ben on les renvoie sur le terrain. Ce sont d'abord les policiers. Donc voilà. Et puis après, on arrive devant un procureur de la République qui dit comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas péril en la demeure, ou il n'y a pas lieu à poursuivre. Et là, c'est un vrai problème. C'est qu'on n'a pas encore pris conscience de ce qu'il s'agissait d'œuvres de l'esprit, protégées par un droit moral, qui est un droit inaliénable.
Mais il y a un autre principe de réalité aussi, c'est la dilution des responsabilités. Et le fait que de plus en plus pour des experts ou des gens qui se disent experts, ça peut être risqué de certifier ou de donner son avis sur une œuvre. L'importance de la réputation dans ce milieu, vous évoquez l'affaire des faux Basquiat et ce que ça a pu coûter à ceux qui les ont présentés, galerie notamment, la prestigieuse galerie Knoedler aussi à New York a dû baisser le rideau, en ferré dans un scandale. C'est toute la chaîne peut aussi être touchée par ces affaires de faux et on a l'impression que chacun se réfugie un peu derrière l'autre.
Alors, oui, les experts font ce qu'ils peuvent avec le talent qui est le leur et qui est variable pour chaque expert. La France a récemment établi une jurisprudence qui différencie les experts des historiens d'art. Un historien d'art peut se tromper. Parce qu'il fait un travail scientifique, il fait un travail universitaire, et il ne donne pas une expertise en vue d'une vente. Donc il n'a pas la responsabilité pénale d'un expert. C'est un cas relativement récent. Aux États-Unis, on est beaucoup plus féroce. La plupart des grands... Alors ce ne sont pas des experts, c'est pas un type qui dit « je suis l'expert de Basquiat ». C'est la famille de Basquiat qui a monté une association avec des historiens d'art qui ont connu Basquiat et qui vont chacun identifier chaque tableau en disant « bon, celui-là oui, celui-là peut-être, celui-là non ». Bon, c'est vrai pour Warhol aussi. Dans les deux cas, Warhol comme Basquiat, ils ont arrêté de faire des expertises. Parce que quand ils disaient à un client « attends, je suis désolé, votre truc c'est une croûte immonde », le dire « ah mais non, vous me faites perdre de l'argent, je vais vous poursuivre ». Et comme ils en avaient un petit peu marre, et je les comprends, de payer les frais d'avocat, ils arrêtent d'expertiser les tableaux.
Vous rappelez la différence aussi entre le faussaire et le copiste. Elle est importante. Vous rappelez que tant que un tableau n'est pas nommé ou signé, ça reste une copie. En fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est nommer ou signer le faux. Mmh. Voilà.
T'es signé le
et
tableau.
La copie est légale.
Oui, bien sûr. Et il y a des copistes au Louvre tous les mardis, je crois. En tout cas, de mon temps, c'était comme ça. Et c'est tout à fait légal. C'est même conseillé. Il faut apprendre à peindre en regardant les peintres précédents. Et c'est pour ça que Elmire de Horry, par exemple, qui travaillait notamment avec Fernand Le Gros, a toujours dit, ce qui est peut-être vrai, peut-être pas, plutôt pas, que lui ne signait jamais les Matisse, les Picasso que Fernand Le Gros vendait. Non, c'était signé par quelqu'un d'autre.
On va terminer en rendant la parole du faux à un faussaire, Guy Ribe. C'était en 2015.
La vie de faussaire, c'est une vie de solitude totale. Vous ne pouvez pas dire aux gens je suis faussaire. D'abord, ils ne vous croiraient pas, ils connaissent rien. Par contre, je vous garantis que tous les marchands de Paris, de New York, partout, me connaissait en tant que faussaire. Il y avait des gouaches, des huiles anciennes, c'était incroyable, c'était une vraie mine d'or.
Et dès que vous aviez terminé, vous jetiez.
Ah, je jetais, oui.
Grand sac poubelle.
Par exemple, là, j'aurais fait un faux, j'enlève tout ça, c'est la poubelle. C'est pour ça que les flics, quand ils ont débarroulé chez moi, ils n'ont rien trouvé. Le seul musée des faux, c'est moi qui l'ai dans la tête, vous comprenez? Tous les bons faux que j'ai faits, c'est un paradoxe, on ne le reverra jamais, ils sont rentrés dans le circuit. Les gens, ils n'ont rien à foutre du tableau, c'est un investissement. Il y a un expert à la gomme, ou compétent ou non, qui dit, c'est bon, vous avez le certificat de tel expert, ça vaut tant.
Le seul musée des faux, c'est moi qui l'ai dans ma tête.
Oui. Ribe est un des nombreux faussaires pas le plus doué, mais pas le plus mauvais non plus. Il a travaillé pour de nombreux escrocs. C'est surtout ça, en fait. C'est un faussaire tout seul, il fonctionne mal. Beltracchi est un cas d'espèce. Van Meegeren aussi. La plupart ont travaillé en duo. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Ribe, le marchand qui écoulait ses faux est à nouveau en activité. Et je crois d'ailleurs qu'il repasse en procès au mois de janvier.
Quel restera pour vous le faussaire le plus illustre?
Celui qu'on n'a pas encore trouvé.
Merci beaucoup à vous, Harry Bellet, Faussaires illustres. Votre livre vient de paraître chez Actes Sud. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide toujours précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Hellig avec Marie le peintre. Très bon réveillon à tous et rendez-vous demain mardi pour une grande table musicale autour de la poésie de Leonard Cohen dès midi, puis à partir de 12h55, la première émission d'une série de 4 autour du thème de la disruption avec la philosophe Marie des Neiges Ruffaut, auteure de Itinéraire d'un robot tueur. Très bel après-midi à tous.